Bonjour à tous, vous écoutez Gloria, saison 2, une émission consacrée aux femmes rebelles, aux femmes combattantes et aux femmes guerrières. Autour de la table, les bénévoles de l'association Les Effets Sonores, tous animateurs d'une émission de radio sur Studio Zef, l'émission blésoise de Blois dans le Loir-et-Cher. Salut Véro.
Bonjour à tous.
Salut.
Timo, salut, Christophe.
Hey, salut.
Jérémy à la technique, comme d'habitude. Et moi, Melior, voilà, salut.
Alors,
dans nos émissions, on vous propose de découvrir des femmes musiciennes, chanteuses qui viennent d'horizons musicaux totalement différents et elles viennent de toutes les parties du globe. On commence avec Timo, un peu de...
Ouais, on va parler d'une femme qui s'appelle Betty Davis, qui est née en 1945 pour vous situer sa génération. Donc c'est une chanteuse de soul funk américaine. Donc quand elle est jeune, dans les années 60, elle est secrétaire ou vendeuse à New York et elle écrit des chansons pour les autres pendant son temps libre. Elle a déjà cette chose là de créer, composer. Elle devient mannequin avec succès, hein, puisque c'est une belle femme. Et elle se marie en 1968 avec un certain Miles Davis, d'où son nom.
Betty Mais, Davis.
Voilà, Betty Davis. Mais le mariage ne tient pas. Au bout d'un an, Miles Davis n'en peut plus.
Trop de caractère.
Ouais, il dira, elle est trop sauvage pour moi. Pourtant, lui était quand même un animal. Ouais,
hein, c'était quelqu'un sauvage déjà.
Ouais. Mais il reconnaîtra plus tard qu'elle a eu beaucoup d'influence sur son travail parce qu'elle lui a fait notamment découvrir le rock psychédélique à travers Jimi Hendrix, des choses comme ça, voilà. Des choses que Miles Davis ne connaissait pas. Donc après sa rupture, elle reprend son travail de mannequin et elle devient l'un des premiers mannequins noirs à travailler en Europe, notamment. Elle continue d'écrire des chansons pendant ce temps-là. Et elle forme son groupe, finalement, grâce à son réseau hein, qu'elle avait obtenu auprès de Miles Davis. Et elle sort son premier album en 1973. Donc, c'est un album assez particulier qui parle beaucoup de sexualité, notamment, et qui choque à l'époque. Hein, c'est vraiment une onde de choc. Et même la National Association excusez-moi, for the Advancement of Colored People, donc une association qui, excusez-moi, c'est un peu compliqué, qui, c'est une association qui œuvrait pour une meilleure image des Noirs américains. Donc plutôt à gauche, on va dire, ben même eux, ils disent ouais, que c'est un peu une honte pour les Noirs américains, quoi, que c'est un mauvais exemple.
Ah oui.
Mais, voilà. Donc il y a même des groupes religieux qui organisent des manifs avant ses concerts. Enfin, c'est vraiment compliqué. Les radios la censurent. C'est vraiment un album qui crée beaucoup de malaise au sein de la société américaine. Donc elle enregistre d'autres albums hein, moins scandaleux, mais qui n'auront pas le même succès. Et puis elle arrête sa carrière. Donc c'est vraiment une figure culte des années 70. Elle est considérée comme une artiste qui a toujours été en avance sur son temps. Notamment avec sa voix qui est particulièrement puissante et rock. Enfin bref, elle était moderne, indépendante et féministe. N'ayons pas peur des mots. Et on va se rendre compte de ça en écoutant son morceau Funk.
They were born with it.
Êtes bien à l'écoute de Gloria, une émission consacrée aux femmes rebelles et guerrières, et c'était la soul avec le morceau funk de Betty Davis.
C'était bien ça.
C'était génial. En fait, on était en train de se dire qu'on passait quand même du bon son.
Ouais,
voilà.
Ouais, quand
enfin
même.
Bref, on se tape un peu tous sur l'épaule en disant c'est super ce que tu as choisi.
Bravo à tous.
Bravo les auditeurs.
Voilà. À toi Véro.
Calmez-vous. Ouais. Bravo Véro.
Calmez-vous s'il vous plaît.
On y va avec l'histoire de Titika. C'est l'histoire de la première artiste transsexuelle en Angola. Alors, le vrai nom de la chanteuse est celui d'un homme, donc Teka Miguel Garcia, né il y a 31 ans dans un quartier pauvre de Luanda, capitale de l'Angola. Titika est aussi d'origine congolaise par son père. Alors, c'est une autre spécificité malvenue dans ce pays d'Afrique australe. Bon, ça fait suite à d'anciennes tensions frontalières entre les deux pays. Voilà, alors de sexe masculin, selon l'état civil angolais. L'artiste précise qu'elle s'est toujours sentie femme, confirmant ainsi tous les témoignages de transsexuels à travers le monde. Voilà. Alors, à 16 ans, elle est rejetée par sa famille, on peut imaginer, puis recueillie par une amie qui chante. Elle entame les démarches pour se faire poser des implants mammaires, donc une nouvelle vie vraiment se dessine pour elle, c'était absolument fondamental. Cette orientation sexuelle est difficile à vivre en Angola, bien que ce pays ne fait pas partie des 38 États africains qui pénalisent l'homosexualité. Alors sa famille la rejette, elle est à plusieurs reprises battue, humiliée, les voisins se moquent, enfin on imagine le cauchemar quotidien. Alors malgré toutes ces épreuves, Titika s'assume et rêve d'être en haut de l'affiche, comme dirait la chanson. En 2010, elle compose Ciao avec l'aide d'amis musiciens. Alors le succès est complètement immédiat. C'est un tube que les Angolais téléchargent aussitôt sur leur téléphone portable et ils l'écoutent en boucle à la radio. Enfin bon, elle devient une star dans son pays et ne tarde pas à s'exporter au Brésil et aux États-Unis. Alors, Titica est sacrée en 2011, meilleure chanteuse de Kuduro. Alors voilà, Kesako Kuduro. Le Kuduro, c'est un genre de musique originaire de l'Angola, inventé par Tony Amado en 96. Alors, d'abord boycotté par les médias, le Kuduro n'était diffusé que dans les petits taxis collectifs de la capitale et puis les discothèques aussi. C'est une musique électronique à texte plutôt engagé. Alors c'est un mix, un mix entre les rythmes africains, le rap, la techno. Enfin bon, c'est encore un métissage un peu improbable. Mais il peut se danser en ligne aussi, à la façon Madison, quoi, voilà. Alors, ce courant musical est issu des quartiers pauvres, hein, des ghettos, voilà, et est aujourd'hui très, très populaire en Angola, mais aussi Portugal, on imagine tous les pays, donc lusophones. Alors, Titica réussit aujourd'hui à se faire respecter grâce à son audace et à sa notoriété. L'histoire ne dit pas si elle s'est réconciliée avec sa famille. En tout cas, elle fait partie des symboles pour l'abolition de tous les tabous concernant la sexualité en Afrique et partout dans le monde, allons-y, dans les paroles de ses chansons ou dans le simple fait d'être invitée à chanter par les personnalités politiques de son pays, par exemple. On va écouter tout de suite Abaixa, qui vient du verbe portugais abaixar, qui veut dire abaisser.
Quintas da banda, ha. A própria rebeliona que acaba com as rebanguladas, mudas pequenas, não quero ouvir o conselho, ha. Vai abraçar o coitado que é invisível. Não quero homem que vira mulher, yeah. Não quero sogra que mete tu na baby. Não quero vizinha soberba fofoqueira. Não quero empregada que me rouba marido. Não quero tias que viram tio. Adão não virou Eva, Eva não virou Adão. Amiga falsa tá bem amarrada. Vem com o show de asa que tem chifre. Você amiga falsa tá bem amarrada. Vem com o show de asa que tem longa. Abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa, baixa, 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 abaixa, abaixa. Globalização é que vai nos matar, é. As coisas estão a mudar, é. Crianças estão a chagar, é. Globalização é que vai nos matar, é. As coisas estão a mudar, é. Abaixa, 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 rebanguladas, abaixa, abaixa, sucula fada. Se faz amiga pra te passar a pena. E quando você dorme, surrupe o terreno. Chama de mami, pisa marido. São corajosas, jogo no meto. Chama de mami, pisa marido. São corajosas, jogo no meto. Oh, oh.
Abaixa, abaixa,
uh-huh. Abaixa, uh-huh. Abaixa, uh-huh. Abaixa, uh-huh. Abaixa, 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 abaixa. Abaixa, dingue, abaixa, dingue, 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 dingue. Abaixa, 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 lele. Oh, oh, oh. Sai apertada, blusa bem justa. Hoje o povo já não tem sentimento. No cemitério só usa calço alto. Antes de ir, só passa no salão. Está a pesquisar e se morreu é ministro. A nova tática pra casar os motivos. Trocar telefone, marcar em encontro. Ir nos hoteles, comer e de borla. Depois de dar o golpe do baú, cabelo é cabelo. A pintura é pintura, a jipe já nem jipe. Zumbi.
rebeliones aquí al límite de más. La tía, dime de más. De bambú, la caí de manera.
C'était le morceau « Abaïcha » de Titika. Ça aussi, c'est bien agréable.
Brasier.
Bon, on reste de ce côté-là du globe, mais on monte un petit peu au nord. Je vais vous parler d'un groupe de rap. Et il s'agit d'un couple de lesbiennes cubaines, voilà, qui s'appelle Crudas Cuenci. En fait, donc c'est un couple, elles sont deux, une est noire, Odaimara Cuesta, et une est blanche, Olivia Prendes. Voilà, elles ont commencé avec le nom Crudas seulement, et ensuite elles ont rajouté Cuenci. Alors elles font du rap vraiment mais féministe, elles défendent l'homosexualité, le mouvement vegan, les queers. Elles sont nées à Cuba toutes les deux dans les années 90 et elles font aujourd'hui partie de la diaspora cubaine qui s'est installée aux États-Unis. Elles vivent là-bas aux États-Unis depuis 2006. Alors elles ont vraiment commencé à se faire connaître sur la scène du rap cubain dans les années 2000. En fait, elles voulaient vraiment que les femmes prennent une place sur cette scène, voilà, du rap, du mouvement hip-hop à Cuba. Et pour se faire davantage connaître, elles montent un collectif de rappeuses. Et en fait, grâce à ça, elles mettent des vidéos aussi sur Internet. Et ces vidéos-là se transforment, enfin c'est des vidéos, des clips, elles font aussi quelques petits documentaires qui sont primés en fait dans des festivals qui mettent en avant l'homosexualité. Ouais. Notamment, je crois que il y a un festival canadien qui leur avait remis un prix, et ce qui permet de se faire connaître en dehors de l'île. Et donc elles finissent par être invitées en fait à se produire. Mais toutes leurs demandes pour sortir de l'île, de Cuba, à chaque fois, c'était dans les années 2000, ça a été refusé par le gouvernement cubain. Donc, elles n'ont jamais pu sortir jusqu'en 2006. Et donc, en fait, elles s'installent aux États-Unis grâce à une politique qui avait été mise en place entre les États-Unis et Cuba, qui s'appelait wet feet, dry feet, c'est-à-dire ou les pieds mouillés ou les pieds secs. Et en fait, quand tu avais les pieds mouillés, ça voulait dire qu'en fait, tu avais quitté l'île de Cuba sur un bateau de fortune pour rejoindre la Floride. Et donc, tu étais intercepté. Généralement, on venait sauver en fait, les Cubains qui voulaient quitter l'île. Et donc, si on avait les pieds mouillés, on ne pouvait pas avoir de droit de séjour aux États-Unis. Donc, les gens étaient renvoyés à Cuba. Mais si on passait par un mode, apparemment, en prenant l'avion, en fait, un peu plus légal, dirons-nous. Enfin, je ne sais pas. Voilà, c'était pas une aventure, légal, voilà, ouais. Moins clandestine. Ouais. Donc, si on rentrait avec les pieds secs, c'est-à-dire par la frontière mexicaine, là, les États-Unis pouvaient accorder un droit de séjour. Et donc, elles ont pu s'installer aux États-Unis en arrivant avec les pieds secs, ouais. Par la frontière mexicaine. Et d'ailleurs, c'est Obama, en fait, qui a arrêté cette politique-là. Maintenant, vu que les relations entre les deux pays se sont un peu détendues, c'est peut-être... Un peu plus simple. Voilà, donc leur décision de quitter Cuba, c'était vraiment motivé par leur volonté de lutter pour une justice sociale en dehors de Cuba. Elles voulaient faire la lumière sur l'isolement subi par les lesbiennes, et notamment noires, dans leur île et dans les Caraïbes de manière un peu plus générale. Donc voilà, depuis 2006, donc ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'elles sont installées aux États-Unis. Elles tournent pas mal là-bas, aux États-Unis, au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique latine comme la Colombie, le Guatemala. Elles organisent aussi des ateliers de sensibilisation dans certaines communautés, voilà, pour expliquer ce qu'est l'homosexualité, que c'est pas forcément
une maladie,
que c'est pas forcément contre nature. Voilà, donc. Au cœur de leur texte, il y a vraiment des thématiques sociales importantes, hein, je le rappelle, parce que pourquoi je parle d'elle actuellement dans cette émission. Féminisme, lutte contre le machisme, le racisme, l'homophobie, et elles veulent faire une musique qu'on appelle consciente, un rap conscient. Voilà, donc elles défendent les minorités, les immigrés, les queers, les gens de couleur, vous l'avez bien compris. Donc le morceau qu'on va écouter s'appelle « Mi cuerpo es mio »,« Mon cœur, mon corps m'appartient ». Voilà, c'est Crudas Cuenci.
Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quiénes? De nosotras. Derechos de quiénes? De nosotras. Decisiones de quiénes? De nosotras. Crudas Cuenci, one more time, representing women and queer people's choices.
fatto sicchi,
omicini, chicchini, frichi,
criatura differente, fatto sicchi,
afro latino americana e caribegna, orgoglio de mi gente, de mi cuerpo dueña, afro latino americana e caribegna, orgoglio de mi gente, de mi cuerpo dueña, afro latino americana e caribegna, orgoglio de mi gente, de mi cuerpo dueña.
My body is mine, my body is mine,
mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío.
Voilà, c'était le rap engagé des Crudas Cubensi, le groupe cubain. Christophe, à toi, on passe à de la musique folk.
Ouais, mais pas que, parce que là, on s'adresse, donc, on fait le point sur Joni Mitchell, et c'est pas que du folk. Joni Mitchell, canadienne. Et elle restera pas canadienne très longtemps, puisque elle va migrer à New York, mais avant, fait notable. Sûrement pas très recommandable d'ailleurs, et c'est une chose peu banale. Elle a, en 65, elle accouche d'un petit bébé, et elle trouve un mari qui semble s'occuper de cette petite fille qui est arrivée comme ça un peu par je ne sais pas quel canal, et les choses ne se passent pas comme elle le souhaite, et elle abandonne directement son enfant, et elle en profite pour prendre la poudre d'escampette vers New York, où elle s'attarde sur cette scène folk, elle prend racine, et elle devient, au même titre que Lou Reed, Leonard Cohen ou Neil Young, une songwriter remarquée et estimée. Bon, même si elle souffre du fait qu'elle n'obtient pas la même notoriété que ces hommes. Là encore, il y a des problèmes machistes sûrement. En 1969, de nouveau, elle a envie de bouger. Elle part en Californie, là où il se passe beaucoup de choses. Elle s'installe à Laurel Canyon, à Los Angeles, qui est l'endroit le plus hot du moment, où on peut retrouver une palanquier d'artistes comme Eric Burdon, comme John Mayall, mais surtout toute la bande des Crosby, Stills, Nash, et même Young.
Et Young.
Voilà. Mais à l'époque, donc, c'est le trio qui fonctionne, et Madame Joni Mitchell s'installe avec David Crosby, et ils font des choses ensemble, de part et d'autre. Et ensuite, on la retrouvera en ménage avec Nash, on la retrouvera avec Neil Young. Enfin bon, elle vogue dans ce trio, et elle compose aussi des choses assez remarquables, et qui sont là parfaitement reconnues par le public, dont le titre Woodstock, qui fait sa gloire, et les Crosby, Stills, Nash, qui apprécient la femme, mais qui apprécient aussi la qualité de la composition, se l'approprient pour leur album déjà vu, je crois. Et ils font un succès avec le titre de Joni Mitchell. Et après cette période californienne qui est quand même assez folk encore, hein, elle décide que désormais sa vie, ça serait le jazz.
Elle change de style.
Ouais, elle change de style, ce qui l'intéresse, c'est le jazz. Et elle va collaborer avec des grands noms, là encore, sur une édition précédente de Gloria, on parlait de Jaco Pastorius qui avait inspiré Christelle. Eh bien, elle travaille avec Jaco Pastorius, elle travaille avec Charlie Mingus, grand nom aussi. Et d'ailleurs, c'est Charlie Mingus qui l'appelle pour travailler avec elle. Et pas de bol parce que le pauvre monsieur meurt avant même la fin des travaux. Mais elle travaille aussi avec Herbie Hancock, Wayne Shorter.
Aux grandes dames de son public d'ailleurs.
Voilà, là il y a eu une rupture un peu évidente par rapport à son public, par rapport aux critiques, par rapport aux radios qui ne comprennent pas trop ce changement de direction. Et d'ailleurs elle n'en a que cure parce qu'elle continue dans ce sillon, elle décide exactement de ce qu'elle veut faire, il n'y a personne qui va l'influencer. Et elle restera longtemps dans ce milieu du jazz. Et pareil, au bout d'un moment, là, à la frontière des années 2000, elle décide que la musique, c'est bon, là, elle en a fait le tour et qu'elle deviendrait une artiste peintre. Donc, elle se consacre à la peinture pendant de longues périodes. Et cependant, elle sort encore des albums régulièrement. Cette grand-mère, tout à l'heure, je vous parlais qu'elle avait abandonné sa fille, elle est quand même revenue. S'occuper, enfin reprendre contact avec sa fille dans les années 90. Elle l'a pas totalement abandonnée, hein. C'est pas une mauvaise mère.
Ouais,
qu'on dise pas ça. Hein. Bah attention.
Non,
hein.
Qu'on dise pas ça. Et donc, bah, désormais, cette dame fait les trucs. Elle ricoche entre la peinture, la musique. Puis elle se fait plaisir à tailler quelques gloires, notamment Bob Dylan, avec qui elle a travaillé dans les années 70. Elle dit que c'est un plagiaire.
Ouais, elle
est
accusée de plagiat.
Ouais. Ouais, donc voilà. Moi, je vous propose de découvrir son titre Woodstock, qui reste quand même un moment important que vous pouvez retrouver dans le film Woodstock avec Crosby, Stills & Nash aussi.
Histoire d'une fille rebelle.
Irina Sendlerova, héroïne de guerre.
Au début du XXe siècle, en Pologne, vivait une fillette appelée Irina qui aimait tendrement son père. Un jour, une terrible épidémie de typhus envahit la ville de Varsovie où ils habitaient. Le père d'Irina était un médecin courageux. Il aurait pu se tenir à l'écart des malades, éviter de s'exposer au danger, mais il choisit de s'occuper d'eux jusqu'à ce qu'il tombe malade lui aussi. Avant sa mort, il confia à sa fille: Irina, si quelqu'un se noie, tu dois sauter à l'eau pour tenter de le sauver, sans tenir compte de sa religion ou de sa nationalité. Irina gardait précieusement ses paroles au fond d'elle. Quand les nazis commencèrent à persécuter les juifs, elle aida les familles juives à sauver leurs enfants. Elle donna à ses enfants des prénoms chrétiens et les plaça dans des familles chrétiennes où ils seraient en sécurité. Elle inscrivit leurs vrais noms ainsi que leurs nouveaux noms sur des petits morceaux de papier qu'elle enroula et cacha dans des pots de confiture. Puis elle les enterra dans le jardin d'un ami, sous un grand arbre. Parfois, les plus jeunes enfants pleuraient quand Irina les emmenait. afin de détourner l'attention des gardes et couvrir le bruit des pleurs, Irina dressa un chien à aboyer sur commande. Elle cacha les enfants dans des valises, des sacs remplis de vêtements, des boîtes et même des cercueils. En 3 mois, Irina sauva 2500 enfants. Après la guerre, elle déterra les pots de confiture et put ainsi réunir de nombreux enfants et leurs familles.
C'est la fin de notre épisode numéro 4 de la saison 2 de Gloria. Vivement le prochain épisode, on vous attend.